You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. You're with SBS Radio.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne, puisque vous le savez sans doute, depuis déjà quelques mois, il y a des négociations qui sont en cours entre Bruxelles et le gouvernement australien pour la signature d'un traité de libre-échange. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, on a deux personnes qui suivent très très bien le dossier et qui le connaissent sur le bout des doigts. Il s'agit de Cornelis Keyser, qui est le conseiller commerce de la délégation de l'Union européenne ici en Australie. Et il est également accompagné de Lionel Menildray, qui est le négociateur en chef sur la question précise des appellations d'origine contrôlée. Vous verrez que c'est un sujet qui est au cœur de ces négociations et sur lesquelles on va revenir en détail. Bonjour à tous les deux et merci de vous être déplacés jusque dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour, c'est un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui.
Et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, donc, comme je l'expliquais, il y a un accord de libre-échange qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et l'Australie. Cet accord, déjà, tout simplement, pourquoi ? Quels sont les enjeux ? Quelle est la situation actuelle des échanges commerciaux entre l'Australie et l'Union européenne ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau de la situation actuelle et ce qu'on en attend une fois que ce traité sera signé, s'il est un jour signé ?
Donc, en fait, nous avons des relations commerciales très étroites déjà. On a pas mal d'exportations à partir de l'Union européenne. On exporte des automobiles, des pharmaceutiques, chimie, textiles, vêtements, aussi beaucoup de services. Mais le problème qu'on a, c'est que l'Australie maintenant a des accords avec presque tous ses grands partenaires commerciaux. Donc ils ont des accords avec la Chine, les États-Unis, le Japon, Corée, les pays de ASEAN. Donc tous ces pays ne payent plus maintenant les droits de douane. Donc ça nous met sur un désavantage. Et si on ne cherche pas à trouver un accord avec l'Australie, on serait marginalisé. Notre commerce sera en danger. Donc,
et vous perdriez en compétitivité par rapport à d'autres pays avec lesquels l'Australie entretient des relations étroites, comme par exemple l'Indonésie, qui est l'un de ses voisins et principaux partenaires commerciaux.
Par exemple, oui, et aussi, surtout par rapport à la Chine, les États-Unis, etc. Donc, ça, c'est notre motivation, mais quelque part, c'est aussi, c'est un choix. L'Australie, c'est un pays très proche au niveau de leur attachement aux valeurs, les droits humains, la liberté d'expression, le système juridique, etc. Donc on est très proche. Donc c'est quelque part, ce serait bizarre de ne pas chercher un accord avec ce partenaire privilégié qui est l'Australie.
Alors, voilà. Juste avant de rentrer plus dans le détail, pour donner un petit peu une image générale, dites-moi si je me trompe, je crois qu'actuellement, les échanges commerciaux entre l'Australie et l'Union européenne, c'est à peu près 100 milliards de dollars d'échanges par an, c'est ça, hein ?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Et dans l'hypothèse où un traité de libre-échange était signé, donc abaissement des droits de douane, voire suppression totale des droits de douane sur peut-être certains produits, j'imagine qu'on peut s'attendre à un coup de boost. Est-ce que vous savez demain à combien les échanges entre l'Australie et l'UE pourraient se chiffrer ?
Oui, on pense que pour les deux côtés, il y aura une augmentation de 35%. De chiffres de commerce. Donc on aura sur les deux côtés 35% en plus.
Ah oui, c'est énorme.
Ouais.
Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, puisque donc ça fait des mois et des mois qu'il y a des négociations, qu'elles vont encore durer des mois et des mois, puisque évidemment, de chaque côté, on s'accroche sur chaque détail pour être sûr que personne n'est lésé. Et il me semble, dites-moi si je me trompe, que l'un des principaux sujets de friction, c'est la question donc des appellations d'origine contrôlée. L'Europe protège plusieurs milliers de produits, qu'il s'agisse de produits laitiers comme le fromage, mais aussi des vins, des alcools, des spiritueux et même d'ailleurs certains types de viande. Et ça, ça coince avec l'Australie justement, puisqu'ici, dans les supermarchés, on trouve des produits tels que de la feta, du prosecco, du gorgonzola, qui sont made in Australia. Et ça, à Bruxelles, on n'aime pas trop.
Oui, bien sûr, on n'est pas ravis de la situation. Mais avant tout, je voudrais dire que si effectivement la question des appellations d'origine est une source de conflit dans cette négociation, c'est un des points parmi une multitude de questions qui sont négociées, que ce soit, comme on l'a évoqué brièvement, la question des droits de douane. Mais au-delà de la simple question des droits de douane, il y a tout un arsenal de dispositions qui sont négociées pour faciliter, accompagner, réguler, discipliner le commerce entre l'Union européenne et l'Australie dans le but de la faciliter donc ce commerce. Donc la question des appellations d'origine pour l'Union européenne, c'est une question qui est avant tout couverte dans le cadre des chapitres de la propriété intellectuelle. C'est un droit de propriété intellectuelle au même titre que des marques, des droits de des brevets ou des droits d'auteur. Et donc à ce titre, on défend, l'Union européenne défend son concept de la protection des droits de propriété intellectuelle et ça couvre les appellations d'origine. Alors concrètement, effectivement, même si le système est universellement reconnu, les noms individuels ont bien sûr fait l'objet de leur protection dans les pays d'origine, en tout premier lieu bien sûr, l'Union européenne cherche à assurer la protection également chez nos partenaires, chez les partenaires avec lesquels ils négocient. Ça fait partie intégrante de toute négociation, c'est pas quelque chose qui est propre à cette négociation avec l'Australie. Et puis plus généralement, c'est pas quelque chose non plus qui est unique à l'Union européenne. On a déjà un précédent dans la relation avec l'Australie, puisqu'il existe un accord sur le commerce des vins qui couvre toutes les questions autour des échanges sur le vin entre l'Australie et l'Union européenne, à l'exception des droits de douane, et qui couvre aussi déjà la protection des appellations d'origine. Donc l'Australie couvre, reconnaît et protège toutes les appellations d'origine des vins européens, à l'exception de, vous l'avez cité, Prosecco pour l'instant, tout comme l'Union européenne protège déjà la centaine d'indications géographiques ou d'appellations d'origine australienne. Donc le concept n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que dans le cadre de ces négociations vers un accord de libre-échange, donc nous avons rajouté la protection dans nos objectifs. Nous sommes mandatés par les États membres en vue de la protection des boissons spiritueuses et aussi de tous les autres, la grande variété de produits alimentaires, vous les avez cités déjà, les fromages, les charcuteries, les fruits et légumes et d'autres catégories de produits.
Alors, si vous le permettez, je vais me faire l'avocat du diable. Le diable, en l'occurrence, étant les Australiens et plus particulièrement les producteurs et agriculteurs australiens. Ils font valoir deux choses. La première, c'est que beaucoup d'entre eux, pour les produits qui posent problème, sont des descendants d'immigrés qui viennent des pays qui sont les producteurs originels de ces produits. Et donc, ils font valoir que la tradition, le savoir-faire, etc., il leur a été transmis par leurs ancêtres. Par ailleurs, ce sont pour certains de ces produits des business qui représentent des millions et des millions de dollars. C'est le cas de la feta, c'est le cas du prosecco. Le marché est en plein boom ici en Australie. Et le deuxième point, et c'est sans doute leur argument le plus fort, ils font valoir que Les appellations d'origine contrôlée, ils n'ont rien contre quand elles se focalisent sur des produits bien spécifiques, par exemple le brie de le camembert de Normandie ou le brie de Meaux. Mais ce qui leur pose problème, c'est que dans la liste qui a été soumise par Bruxelles à Canberra, il y a aussi des produits qui, selon eux, sont des termes génériques. Et typiquement, c'est le cas de la feta. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces agriculteurs face à ces arguments ?
Alors, pour reprendre votre première question, comme vous l'avez dit, l'argument qui est avancé par les communautés grecques ou italiennes qui sont installées en Australie, dans d'autres pays, l'argument sur le fait que ces communautés sont venues avec leur savoir-faire, leur expérience, leurs produits, je dirais que, en fait, ils sont peut-être justement les mieux placés pour reconnaître que ces produits, même s'ils ont amené les noms, ces produits ont acquis avant tout une réputation dans leur lieu d'origine et que dans bon nombre de cas, les spécifications, les qualités et les méthodes de production sont pas, pour être tout à fait honnête, sont pas du tout les mêmes que celles dans leur pays d'origine. Pour prendre le simple exemple de la feta est un produit grec qui est un fromage fait essentiellement à base soit de lait de brebis, soit d'un mélange de lait de brebis et de chèvre. Sur le marché australien et dans d'autres marchés, vous trouverez des produits qui sont appelés feta, et la grande majorité de ces produits sont faits à base de lait de vache. Donc il y a déjà une première différence fondamentale. Et donc les descendants de ces communautés grecques, pour ce qui est de la feta, devraient, pour présenter une image complète de la situation, reconnaître ce fait, c'est que fondamentalement, le produit n'est pas le même à la base, c'est pas le même produit de la même matière première. Donc ça, c'est une première chose. Pour la deuxième question concernant le fait que feta n'est pas un produit qui est lié à une région particulière, ça, c'était pas tout à fait vrai, hein. Il y a des limitations, ce n'est pas exactement tout le territoire grec par exemple qui permet la production de feta, et même si pour compléter l'argument que feta par exemple n'est pas un nom géographique, rien n'interdit qu'une indication géographique ne soit pas, ou ne comprenne pas dans sa dénomination un lieu géographique. Ça, c'est quelque chose qui est c'est un fait dans la grande majorité des cas, mais rien n'empêche qu'un nom bénéficie d'une appellation d'origine, même si formellement ce n'est pas un nom géographique, aucun traité ne l'interdit.
Un dernier point sur cette question, parce qu'elle est quand même importante, et comme je vous l'ai dit ici, elle suscite beaucoup d'inquiétudes, un peu de fantasmes aussi, certes, mais beaucoup d'inquiétudes. Au final, cette fameuse liste, le gouvernement australien l'a enfin publiée il y a quelques semaines. Elle comporte plusieurs centaines de références, mais au final, effectivement, il n'y a qu'une poignée de produits qui posent vraiment problème. Donc, on a cité notamment la feta, le gorgonzola, le prosecco. En supposant que demain, dans le cadre de ces négociations, vous, les Européens, finissez par avoir le fin mot de l'histoire, ces producteurs vont être contraints d'utiliser d'autres termes, des termes un peu, des descriptions un peu chirurgicales de leurs produits. Pour reprendre encore l'exemple de la feta, certains disent demain on ne pourra plus dire feta, il faudra dire fromage de brebis qui a trempé dans la saumure. C'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, et on peut comprendre qu'ils soient inquiets, non ? Vous les comprenez ou...
Je les comprends. C'est vrai que si nous arrivons à obtenir le résultat qui nous a été demandé par les États membres, hein, ce sont les États membres, n'oublions pas, qui mandatent la Commission pour conduire cette négociation. La défense et la protection des appellations d'origine est clairement établie dans ce mandat. Les opérateurs, les producteurs australiens ont effectivement des changements dans leur méthode de commercialisation, concernant notamment le nom. C'est très franchement une caricature de dire que nous leur donnons ou nous leur prescriverons de garder ou d'utiliser des noms très descriptifs. Si nous arrivons à la conclusion et à la protection du terme feta, ce n'est pas les produits en tant que tels qui seront interdits, mais comme vous l'avez souligné, ce sera la dénomination qui est utilisée. Et on peut très bien penser, imaginer que des marques qui sont déjà très connues, qui mettent en avant, qui indiquent, qui utilisent l'utilisation de feta, simplement mettront en avant avant tout leur marque, et les consommateurs australiens continueront à reconnaître et avoir accès relativement facilement à ces produits et continueront à pouvoir acheter bien sûr librement les produits australiens plutôt que les produits grecs.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.